Le journal Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. La guerre en Ukraine à la une d'une actualité toujours plus préoccupante. L'évacuation de la ville assiégée de Mariupol a été reportée. Elle devait débuter à 11h. Le cessez-le-feu promis par la Russie n'est pas respecté. Kiev, où la nuit a été plus calme, tout comme Odessa, se prépare à un assaut russe. Enfin à Kherson, occupé depuis 3 jours par l'armée russe, la population a manifesté ce matin. Nous serons avec nos envoyés spéciaux en Ukraine dans un instant. Invité de ce journal, Bénédicte Jeannerot, directrice France de Human Rights Watch. Dans ce journal également, la campagne pour l'élection présidentielle et l'équipe du candidat Macron dévoile ce matin la fiche de campagne, les Restos du Cœur avec la grande collecte 2022 et aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques de Pékin. La France obtient ses 2 premières médailles, l'or pour Arthur Baucher, le bronze pour Hyacinthe Delaplace, tous deux en descente. La météo, ciel couvert à l'ouest, ensoleillé à l'est, Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition, à 13h20, un secret d'info spécial, Jacques Monin.
Eh bien, une émission spéciale consacrée au rapport qu'entretient Vladimir Poutine avec les services secrets, parce que c'est une des clés de compréhension du personnage et de ce qui se passe en ce moment en Ukraine.
Jacques Monin, secret d'info, après ce journal.
France Inter.
La guerre en Ukraine et les faux espoirs pour les civils de Mariupol. Au 10e jour de combat, le conflit s'est encore aggravé et l'évacuation annoncée de la ville de Mariupol dans le sud-est du pays a été reportée pour non-respect du cessez-le-feu. Un accord de l'arrêt des hostilités avait été conclu avec la Russie, mais la trêve temporaire ne tient pas en raison de multiples violations russes du cessez-le-feu selon la mairie de Mariupol et donc le blocus continue. Mariupol est bombardé depuis 5 jours. Nos envoyés spéciaux en Ukraine, Omar Waman et Gilles Galinero, ont pu joindre Diana, une habitante de Mariupol qui vient tout juste de s'enfuir de la ville et de fuir la guerre.
C'est l'enfer. Maintenant, à Mariupol, c'est l'enfer total.
Et cet enfer, Diana, 42 ans, est parvenue à le fuir hier à la tombée de la nuit.
Les Russes ont bombardé toutes les infrastructures, comme les centrales électriques. Donc il n'y a plus d'électricité dans la ville. Il n'y a plus de chauffage. Il n'y a plus d'eau, car toutes les stations de pompage sont à l'arrêt sans électricité. Et puis il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire que depuis 5 jours, il n'y a pas d'Internet. Vous êtes en fait coupé du monde.
Diana et son mari sont restés bloqués pendant 5 jours dans des conditions épouvantables.
Les services de la ville ont mis en place quelques points de distribution de pain ou d'eau potable, mais il faut faire la queue très longtemps. Les files sont extrêmement longues. Les gens font des feux dans leur jardin pour se réchauffer. Il n'y a plus d'essence, donc les habitants qui ont une voiture conduisent très peu pour économiser du carburant. C'est très effrayant, spécialement la nuit, à cause des bombardements incessants.
Le cessez-le-feu annoncé par le ministère de la Défense russe est destiné à l'évacuation des civils. Mais pour Diana, il permettra également aux habitants de sortir de leur isolement.
Cet arrêt des bombardements va permettre à la ville de réparer l'électricité et d'être de nouveau connectée. On pourra parler avec nos familles et prendre des nouvelles de ceux que nous avons laissés derrière nous. Les gens vont pouvoir se rendre dans des endroits plus sûrs, plus sécurisés.
La bataille de Mariupol ne fait que commencer. Des milliers de combattants ukrainiens sont prêts à défendre leur ville jusqu'au bout. Kiev, Gilles Galinaro, Omar Waman, France Inter.
Situation tout aussi alarmante sur le terrain dans d'autres villes ukrainiennes. La ville de Kharkiv, dans l'Est, est actuellement bombardée par l'armée russe. La capitale, Kiev, tout comme Odessa, dans le sud de l'Ukraine, se prépare à un assaut russe, même si à Kiev, la nuit a été calme. Et puis ce matin, dans la ville de Kherson, prise par l'armée russe il y a 3 jours, des habitants ont pris d'énormes risques en allant manifester. Correspondance en Ukraine de Vanessa Decoro.
Kherson est la première grande ville ukrainienne tombée aux mains des Russes. Manifestation ce matin donc contre l'occupant, comme disent les habitants de la ville. Il faut préciser, et c'est très important, que Kherson est une ville majoritairement russophone. Et ce matin, les images qui nous parviennent montrent une forte mobilisation sur la place principale de cette ville donc occupée. Des slogans en faveur de la souveraineté ukrainienne ont été chantés. Et puis il y a cette image aussi, celle d'un char russe volé par des manifestants qui parade depuis avec leur trésor de guerre. Sous les hurrahs de la foule, un drapeau ukrainien a été posé fièrement sur ce char. Kherson est en train de montrer au reste du pays que les chars de Moscou n'arrivent pas à imposer l'allégeance aux Russes. C'est une ville occupée qui a encore la force et la foi surtout de résister de l'intérieur. Pour le moment, les soldats russes n'ont pas riposté et se sont même montrés relativement discrets face aux manifestants.
Vanessa Decoro avec Marc Garvenès. Et en Russie où la communication et le contrôle sur l'information est un enjeu majeur, le Kremlin justifie ce matin encore le tour de vis radical contre les médias et les réseaux sociaux. La loi réprimant les informations mensongères sur l'armée russe est nécessaire, rappelle Moscou. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Alors entre le blocage de Facebook et cette nouvelle loi contre les médias indépendants, la population russe n'a quasiment plus accès qu'au discours officiel.
Et oui, et parce que de nombreux médias qui travaillent en Russie, qu'ils soient russes ou étrangers, ont décidé de suspendre leurs activités temporairement, au moins le temps d'arriver à comprendre vraiment les risques judiciaires que cette nouvelle loi, vous l'avez dit, votée hier par la Douma, fait peser sur eux. Une loi de la vie générale qui est rédigée dans des termes très restrictifs, mais surtout des termes très flous, impossible de savoir ce qu'il est désormais possible de dire et d'écrire sur le conflit en Ukraine et plus largement sur l'armée russe, hein, sans encourir jusqu'à 15 ans de prison. Impossible aussi pour le moment de savoir si la loi s'applique aux seuls médias diffusés sur le territoire russe ou à toute publication faite même vers l'étranger depuis Moscou. Le maintien des correspondants étrangers en Russie en dépend. Pour le moment, aucun n'a pris la décision de quitter le pays, mais c'est l'autocensure qui domine pour éviter le vrai couperet de la censure officielle. Le résultat, vous l'avez dit, c'est qu'entre Internet très restreint et les médias sous la menace judiciaire, eh bien, il est devenu quasiment impossible pour les citoyens russes de s'informer sur le conflit ukrainien autrement qu'à la source des médias officiels.
Camille Magnard, merci. Ces informations encore, on apprend que Aeroflot annule tous ses vols internationaux à partir du 8 mars prochain. Et puis la société Zara annonce de son côté suspendre ses activités en Russie. Cette information également, le président russe Recep Tayyip Erdogan compte appeler Vladimir Poutine à mettre fin à la guerre. Il lui propose d'accueillir des pourparlers de haut niveau entre la Russie et l'Ukraine. Un entretien téléphonique est prévu demain dimanche selon son porte-parole. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est toujours à la recherche de soutien à l'international. Après avoir regretté le rejet délibéré, a-t-il dit, de l'OTAN de ne pas instaurer de zone d'exclusion aérienne en Ukraine, le président Zelensky, dans un message en hébreu publié sur les réseaux sociaux, a appelé les Juifs dans le monde entier à se mobiliser contre l'invasion russe. Volodymyr Zelensky, qui est de confession juive, demande notamment à l'État d'Israël de l'aider. Israël, puissance militaire et technologique et où 20% de la population est originaire de l'ex-URSS, mais le Premier ministre israélien Naftali Bennett ne veut pas s'engager trop fortement contre la Russie. Sur place à Jérusalem, Frédéric Metezo.
Il est important que des millions de juifs à travers le monde ne restent pas silencieux. Le nazisme est né dans le silence, écrit Volodymyr Zelensky dans un message en hébreu. S'il est heureux d'avoir vu des Israéliens prier au mur des lamentations avec le drapeau ukrainien, il a l'impression que le gouvernement israélien ne s'est pas lui-même drapé dans ce drapeau. Effectivement, Israël envoie de l'aide humanitaire en Ukraine et les Ukrainiens juifs qui le demandent arrivent par dizaines en Israël. Mais pas d'aide militaire à l'Ukraine, pas de condamnation très forte de la Russie. Israël, pourtant très proche des États-Unis, estime qu'il n'a pas le choix. Impossible de se fâcher avec Moscou, allié de Bachar el-Assad en Syrie voisine. Quand l'armée israélienne veut frapper les positions iraniennes en Syrie, elle doit se coordonner avec l'armée russe. Une position d'équilibriste qui déplaît aux centaines de manifestants anti-Poutine et à une grande partie des éditorialistes israéliens, inquiets qu'Israël se retrouve du mauvais côté de l'histoire. Jérusalem, Frédéric. Éric Mettezo, France Inter.
Invité de ce journal, Bénédicte Jeannerot, directrice France de Human Rights Watch. Bonjour Bénédicte Jeannerot.
Bonjour.
Alors l'évacuation des civils de Mariupol qui devait débuter ce matin n'a pas eu lieu. Le cessez-le-feu promis par la Russie n'est pas respecté. Les 450 000 habitants de cette ville sont toujours sous blocus. Est-ce que vous, avec Human Rights Watch, vous essayez de peser, de lutter pour que ces évacuations, ces corridors humanitaires puissent être mis en place enfin ?
Alors en fait, quelle que soit la manière dont les civils peuvent être évacués, que ce soit à travers des corridors humanitaires ou d'autres moyens, la protection des civils, la possibilité de pouvoir quitter une zone de conflit est une base du droit international humanitaire. Donc bien sûr que nous appelons à ce que les civils puissent être protégés, puissent être évacués, puissent quitter ces zones de conflit. d'autant plus que on a largement documenté l'utilisation par les forces russes de tactiques qui sont extrêmement dommageables pour les civils. Donc qu'il s'agisse de corridors humanitaires ou d'autres moyens, les civils doivent pouvoir être protégés et quitter ces zones de guerre. Et j'ajoute juste que la question, le fait qu'il y ait un corridor humanitaire ne dispense pas les parties au conflit de protéger les civils et de protéger les civils qui resteraient à l'intérieur de ces zones de guerre.
Alors il y a les civils qui vont rester ou qui resteront à l'intérieur de ces zones de guerre. Il y a aussi 1 300 000 réfugiés après 10 jours de guerre, Béatrice Jeannerot. Est-ce que la réponse européenne est à la hauteur des attentes de ce million un peu plus de réfugiés ukrainiens?
Alors il y a eu un effort qui a été extrêmement rapide et important, qu'il s'agisse de l'accueil de ces réfugiés qui, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, était un afflux pratiquement jamais vu, en fait, par son ampleur et dans un temps aussi court. Donc il y a eu une réponse de la part des différents pays d'accueil et des différents pays frontaliers qui a été très forte, très rapide. Le fait que l'Union européenne ait aussi déclenché une directive pour pouvoir octroyer une protection à ces réfugiés et aussi à saluer. Et donc on peut estimer qu'il y a eu une réponse à la hauteur jusqu'à maintenant, extrêmement rapide. Ce que l'on peut en revanche déplorer, et c'est ce que Human Rights Watch a documenté sur le terrain, et le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent fuir les combats, des réfugiés qui sont des non-ukrainiens et qui ont de très grandes difficultés pour quitter le territoire ukrainien. Et donc là, il y a un effort très important à faire pour que les autorités ukrainiennes laissent partir les gens qui fuient les zones de guerre, qu'il s'agisse d'Ukrainiens ou de ressortissants étrangers, et que la protection de ces personnes se fasse absolument sans discrimination.
Béatrice Jeannerot, vous avez... Bénédicte Jeannerot. Vous avez noté et dénoncé l'utilisation d'armes à sous-munitions, notamment à Kharkiv. Est-ce que vous allez porter plainte pour crime de guerre auprès de la Cour pénale internationale?
Alors, on a documenté effectivement des attaques répétées avec ces armes qui sont extrêmement dommageables pour les civils. Je rappelle que ce sont des armes qui explosent et qui libèrent ce qu'on appelle des sous-munitions, qui sont des mini-bombes et qui se répandent sur le sol et qui, quand elles n'explosent pas en l'air, ont des effets aussi à très long terme sur les civils, puisque ces bombes peuvent ensuite être déclenchées quand elles sont touchées au sol par différentes personnes. Donc ce sont des armes qui sont interdites par le droit international. Or, les forces russes les ont largement utilisées déjà dans un certain nombre de villes, dont à Kharkiv, ce qu'on a pu documenter. En termes de justice internationale, il y a déjà la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête mercredi et qui pourra enquêter sur de possibles crimes de guerre en Ukraine. Il faut noter aussi que le Conseil des droits de l'homme, hier, de l'ONU, a ouvert aussi la possibilité de mettre en place un mécanisme d'enquête internationale qui pourra aussi enquêter sur les multiples violations. Donc là, maintenant, il va relever de la responsabilité de la Cour pénale internationale et des États membres pour que la Cour ait les moyens nécessaires pour travailler, pour pouvoir collecter ces différentes preuves et un jour ouvrir des cas devant la justice internationale.
Merci Bénédicte Jeannerot, directrice France de Human Rights Watch. Merci à vous. Enfin, sachez que mardi 8 mars prochain, France Inter et France 2 se mobilisent et proposent un concert exceptionnel en soutien au peuple ukrainien et à toutes les populations touchées par le conflit. Ce concert présenté par Nagui et Laïla Kadour-Boudadi aura lieu en direct, en public, de 21h à 23h30 à la Maison de la Radio et de la Musique, avec la contribution de très nombreux artistes unis pour l'Ukraine. Une soirée spéciale de solidarité en partenariat avec la Croix-Rouge. Venons-en maintenant à la campagne pour les élections présidentielle. Marine Marine Le Pen reporte son déplacement en Corse, prévu demain dimanche, en raison de tensions sur l'île liées à l'agression d'Ivan Colonna à la prison d'Arles. La situation de l'ordre public en Corse ne permet pas ce déplacement, indique le Rassemblement National. Si la campagne se poursuit pour la majorité des candidats, avec plusieurs meetings ce week-end, pour Emmanuel Macron, elle démarre véritablement après une lettre de candidature jeudi soir, une vidéo hier soir. L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron dévoile aujourd'hui la fiche du candidat. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Une affiche sobre et simple.
Oui, une photo d'Emmanuel Macron, costume, cravate, veste bleu marine, plan poitrine, regard direct dans l'objectif, léger sourire, presque complice, il se montre accessible, empathique, à la hauteur des Français. On aperçoit derrière, comme en 2017, quelques silhouettes, des arbres, un ciel gris. La photo n'a pas été prise en studio, option choisie par François Hollande et Nicolas Sarkozy, mais en marge d'un déplacement à Liévin, dans le Pas-de-Calais, c'était le mois dernier, nous y étions. Hommage aux 42 mineurs tués en 74 dans la fosse de Saint-Amé. Avant lui, seul François Mitterrand s'était incliné devant cette stèle. Il ne reprend pas son slogan de 88, la France unie, mais ça y ressemble. Sur cette affiche, en lettres blanches, quatre mots, Emmanuel Macron, avec vous. Ce sera bien son slogan de campagne, avec vous, sous-entendu pour vous protéger, vous accompagner à vos côtés, marqueur de proximité et de sobriété. Pas de pupitre, pas de drapeau, pas même le logo du parti présidentiel, le président. Ses yeux bleus dans ceux des Français, rien d'autre. Ce visuel vient d'être imprimé à 2,5 millions d'exemplaires avec au verso les premières lignes de son projet. Le tractage commence ce week-end avec des ministres sur les marchés. Logique aussi de proximité.
Et puis Maxence, la guerre en Ukraine a des effets sur la campagne présidentielle. Et selon une enquête, la guerre en Ukraine accroît l'intérêt que l'opinion porte sur le scrutin présidentiel et conforte également la première place du candidat Macron.
Oui, pour la première fois, le chef de l'État atteint la barre des 30% d'intention de vote, 16 points d'avance sur Marine Le Pen, du jamais vu. Son costume de chef des armées le place largement au-dessus de la mêlée et tous les instituts de sondage le constatent ces derniers jours. Il a gagné 3, 4, 5 points. L'enquête dont vous parlez est la plus fiable. Plus de 13 000 personnes interrogées par Ipsos Soprasteria pour Le Monde, le Cevipof et l'Institut Jean Jaurès. La bataille pour la seconde place paraît toujours aussi ouverte avec Marine Le Pen à 14,5%, Éric Zemmour à 13%, Jean-Luc Mélenchon à 12% et Valérie Pécresse, cinquième, à 11,5%. C'est elle qui souffre le plus de cette avance d'Emmanuel Macron.
Maxence Lambrecq, merci. La grande collecte des Restos du Cœur 2022 a démarré hier et jusqu'à demain dimanche. Les bénévoles de l'association seront présents dans des centaines de magasins pour récupérer les denrées alimentaires et les produits d'hygiène. Les 70 000 bénévoles des Restos du Cœur vous attendent donc à la caisse des supermarchés avec pour objectif cette année battre le record de 7 800 tonnes de denrées collectées l'année dernière. L'objectif est de dépasser les 7 000 tonnes. Les Jeux paralympiques de Pékin et lors de la première journée de compétition, la France remporte 2 médailles, l'or en ski alpin pour Arthur Baucher en descente et la médaille de bronze pour le skieur français Hyacinthe Delaplace en descente catégorie déficient visuel. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Frédéric.
Et la performance des skieurs déficients visuels est tout simplement extraordinaire.
Ouais, skieur de vitesse malvoyant, Hyacinthe Delaplace s'élance dans le mur de la piste de descente ce matin pour l'orienter entre les portes. Son guide, Valentin Giromoine, part devant, quelques mètres devant Hyacinthe. Les deux communiquent par intercom. Un micro sous la visière du casque pour Valentin qui donne les consignes à chaque virage. Un écouteur dans l'oreille pour Hyacinthe qui les exécute à la lettre. Tout ça sur un fil sans rien voir pendant près de 2 minutes et à plus de 100 km/h. Un véritable exploit à chaque départ. Biathlon, c'est plus lent mais tout aussi technique. Le guide est à côté ou devant quand ça skie. Le plus compliqué pour les athlètes déficients visuels, c'est la séance de tir qu'il gère complètement seul. Pas de balles réelles pour atteindre la cible comme les valides, mais un faisceau laser. Le canon de la carabine est orienté à l'oreille. Anthony Chalençon et Benjamin Davier, ce matin, les Français par exemple, ont mis un casque sur la tête en arrivant sur le pas de tir. Et c'est l'oscillation d'un son qui leur permet de se repérer et de tirer juste en plein dans le mille.
Guillaume Batin, merci. Le choc culturel du week-end consacré à un ancien journaliste gastronomique au Guide Michelin où il a travaillé pendant une douzaine d'années. Et dans son roman Chef, Gauthier Battistella imagine le suicide d'un chef étoilé, l'occasion de plonger dans un univers régi par une discipline d'acier et la passion de l'excellence, Ilana Mor-Youssef.
On pourrait écouter Gauthier Battistella pendant des heures, tant sa passion pour l'univers de la gastronomie est communicative. Il jure que tout est vrai dans son roman, toutes les anecdotes, comme celle de ce chef qui fermait les toilettes à clé pour empêcher les commis d'y aller pendant le service. Les malheureux étaient obligés de porter des couches. Gauthier Battistella.
Ce que j'ai essayé de faire dans mon roman, c'est de donner à voir aux convives et aux lecteurs ce qu'ils ne verront jamais, c'est-à-dire les coulisses des coulisses. Rester en permanence, quasiment caméra à l'épaule, derrière l'épaule du chef. Certains chefs cuisinent dans des endroits extrêmement petits et les cuisiniers se sentent sans se toucher. C'est un balai, mais un balai qui est matiné d'ordre sec.
Le chef 3 étoiles Paul Renoir a 62 ans quand il se suicide. C'est le tout début du roman. Et à travers ce personnage, ce sont 50 ans de gastronomie française qui défilent.
C'est un univers de secrets, c'est un univers d'ambition, c'est un univers d'ego. Les chefs sont des artistes. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était d'étudier le processus créatif pour arriver à quoi ? À une assiette. Et l'assiette, c'est quoi ? C'est un art éphémère. Elle est chaude, elle arrive sur la table. 10 secondes plus tard, elle n'existe plus.
La mécanique de précision d'une brigade, la passion de l'excellence, on trouve tout cela dans ce roman savoureux.
Chef de Gauthier Battistella, publié aux éditions Grasset. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Un ciel partagé cet après-midi, s'il est bien dégagé à l'est d'un axe Lille-Paris-Bourges-Carcassonne, avec une petite réserve pour la région PACA et pour la Corse, soumise à des ondées neigeuses à partir de 800 mètres. Sur la moitié ouest, la perturbation qui stationne depuis quelques jours maintient un temps globalement gris et même parfois pluvieux sur une trajectoire Haute-Normandie-Midi-Pyrénées, dans des températures généralement comprises entre 8 et 12. Cet après-midi, il fera jusqu'à 15 degrés sur le Roussillon. Demain, les pressions vont se renforcer sur l'Europe, chassant les nuages vers l'océan, avec par conséquent du soleil pour la plupart des régions, mais avec des ondées résiduelles à prévoir le matin sur l'arc atlantique et le maintien d'une certaine instabilité de PACA à la Corse. Les gelées dans le quart nord-est seront fréquentes au lever du jour, entre moins 1 et moins 3 degrés, et l'après-midi, en raison du vent d'est sensible, les températures ressenties seront fraîches.
Jean-Michel Golinski de Météo France.